Tac. Et normalement, vous avez ce qui est affiché. Donc, mon sujet, je l'ai un petit peu réfléchi voilà, l'année dernière en me disant, mais qu'est-ce que je voudrais présenter finalement au BALS l'année prochaine? Et je me suis dit, un sujet sur la colère, c'est quelque chose qui me plairait bien de creuser un petit peu et de présenter. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que ben, moi aussi, je viens DJ du un peu du sud et j'ai tendance à monter très vite dans les tours, quoi qu'on en pense. Et voilà. Et du coup, j'essaye de travailler à rectifier cette tendance. Voilà. Et ben, je me suis posé plein de questions par rapport à ce sujet. Et juste pour commencer, j'ai une petite anecdote où cette phrase, fais-tu bien de t'irriter? J'ai un peu l'impression en fait qu'un jour dans ma vie où j'étais dans un voyage, etc., je me suis retrouvé tout seul dans un coin un peu perdu avec un GPS qui fonctionnait pas du tout, avec une voiture, etc. Et je me suis bien énervé et en me disant mais c'est pas possible, qu'est-ce que je fais là, comment je vais m'en sortir, etc. Et voilà, la solution je l'ai trouvée et puis bah, les choses se sont remises correctement. Et puis par la suite, en rentrant là où je devais aller, j'ai entendu cette voix qui me disait « Fais-tu bien de t'irriter ?» Et comment dirais-je, ça m'a arrêté sur place en me disant « Mais c'est vrai ça, pourquoi je m'irrite? Fais-tu bien de t'irriter ?» Et je me suis posé vraiment beaucoup de questions par rapport à ça, et j'ai vraiment eu l'impression que c'était Dieu lui-même en fait qui me donnait un petit peu une leçon en me disant bah, pourquoi tu t'énerves pour des choses finalement qui n'ont pas vraiment de sens? Fais-tu bien de t'irriter? Et cette phrase, elle n'est pas de moi, elle est dans le livre de Jonas, au chapitre 4, au verset 9, et on va un petit peu réfléchir finalement sur voilà ce. Ne peut pas marcher, pourquoi? Voilà. Sur un petit peu le sens de irrité, colère, etc. Je vous propose un plan. Je ferai une courte introduction, puis ensuite on prendra des exemples de colère dans la Bible. J'en ai trouvé quelques-uns. Alors je ne les ai pas tous cités parce que sinon c'est très très long, mais voilà, j'en ai choisi quelques-uns qui me paraissent intéressants. Puis je me suis posé après la question de savoir, dans ces exemples, finalement, qu'est-ce qu'il y a en commun? Qu'est-ce qui fait qu'on est dans quelque chose qui peut peut-être, nous, chrétiens, 21e siècle, nous parler et nous dire, mais concrètement, d'où ça vient la colère? D'où est le... On pourra peut-être éventuellement trouver quelques origines de la colère, en tout cas une, il me semble. Et finalement, c'est un peu ça mon intérêt de cette présentation, c'est d'arriver à passer par-dessus, à trouver finalement la solution en me disant, est-ce qu'on peut trouver la liberté dans la colère? Voilà, et puis finir avec une courte conclusion. Dans l'introduction, oula, c'est fait exprès, hein, c'est pour dire, quand on est énervé, on peut ressentir tout ça. C'est injuste, je suis frustré, je suis en colère. Je me sens contraint, ça m'énerve, je suis dégoûté, je suis blasé, j'en ai marre, c'est n'importe quoi. Je trouve ça horrible. C'est désagréable. C'est plus fort que moi, c'est sclérosant, étouffant, ça me rend triste, je me sens trahi, j'ai envie de crier, j'ai envie de tout casser, je me sens opprimé, ça m'étouffe. Trois petits points. Ça, c'est peut-être finalement ce que l'on peut ressentir par moment dans notre vie quand on vit des choses qui sont compliquées, qui nous handicapent dans notre marche. Il me semble que Dieu nous appelle à faire le tri dans ces choses. Qu'est-ce que finalement, dans tous ces états d'âme qui sont finalement ce que je ressens à un moment donné dans ma vie, qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire avec? À les mettre de côté? À me dire qu'ils ne sont pas moi? À me dire finalement qu'est-ce qu'il faut vraiment les écouter, est-ce qu'il faut vraiment prendre le temps de tous les écouter, il me semble que Dieu nous appelle à faire le tri. Il me semble que Dieu nous appelle à trouver la paix avec chacun, être libre dans mon action, ne pas se sentir frustré. Vivre serein dans les circonstances, ne pas les subir, mais au contraire, finalement, comprendre de qui elles proviennent. Voilà, mais ça peut être tout fouillis. Qui va nous aider un petit peu à avancer dans ce cheminement. Je me sens, comme on a dit tout à l'heure, je me sens en colère face à quelqu'un. Je me sens frustré dans une situation. Je me sens fébrile dans une circonstance. Et moi, je vous propose de travailler finalement sur, voilà, la colère. Il me semble que la colère, elle a un rapport avec la justice de Dieu face à quelqu'un. Comment finalement mon rapport est face à quelqu'un avec cette justice de Dieu? Qu'est-ce que j'en fais? La frustration, c'est le sujet que je ne traiterai pas, mais voilà, j'en parle aussi. Mon rapport à la recherche de la volonté de Dieu sur mon action, Dieu me montre, instant après instant, ce que j'ai à savoir, en connaissant finalement ce qu'est sa volonté. Donc finalement, la frustration n'est pas quelque chose qu'en tant que chrétien, je devrais. Mon rapport à la souveraineté de Dieu dans les circonstances, est-ce que Dieu est souverain ou il ne l'est pas? Si Dieu est souverain, alors les circonstances sont dans sa main. S'il ne l'est pas, alors finalement, j'ai toutes les raisons de me faire de la peine ou d'avoir peur ou de craindre. Donc le sujet qui va nous intéresser, c'est la colère. Des exemples dans la Bible. J'en ai pris trois. Le premier, c'est le prophète Jonas. Le texte qu'on va lire ensemble. Donc, Jonas, chapitre 3, verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. Une seconde fois. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait: Encore 40 jours, et Ninive est détruite. Les gens de Ninive publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit, et il fit cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Oui.
Il y a des coupures quand tu parles.
Oui.
Peut-être mieux serait que tu coupes ta vidéo.
Alors attends,
Mais
comment je coupe ma
en
vidéo?
bas à gauche, là, tu coupes ta vidéo.
Ouais, je vais mettre en arrêt vidéo moi. D'accord, ok.
Voilà. Et tout le monde, Mounette, Michel, il vaut mieux couper vos vidéos. Comme ça, peut-être que ça ira mieux. Merci
C'est peut-être
beaucoup.
ma connexion, hein. J'en suis navré. Mais c'est le seul endroit que j'ai de dispo.
Il n'y a pas de mal. À toi la parole.
Alors, je continue. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait. Il implora l'Éternel, il dit: Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. L'Éternel répondit: Fais-tu bien de t'irriter? Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre, jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin, et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient, et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit « La mort m'est préférable à la vie ». Dieu dit à Jonas « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin ?» Il répondit « Je fais bien de mériter jusqu'à la mort ». Et l'Éternel dit « Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit ? Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. » Alors, c'est le texte un peu plus long, après les autres. On a voilà, ces deux choses qui ressortent. La première, fais-tu bien de t'irriter ? La deuxième, fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin ? Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est Caïn, dans la Genèse, Genèse 4, verset 1. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel ». Elle enfanta encore son frère Abel, Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité ? Et pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. » Donc, deuxième exemple, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Et dernier exemple, alors, il n'est pas forcément noté cette notion de colère, mais on comprend quand même que Élie, c'est quelqu'un qui a quelque chose qui ne va pas et qui fait ce chemin parce que justement, il y a quelque chose qui le rend très triste ou qui a ce qu'on pourrait appeler une colère rentrée. Le texte est un peu long. Donc, Élie, donc le texte, chapitre 19, verset 1. Acab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beer-Sheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi. » Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, dame d'El-Méola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée d'Azaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Et il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Que fais-tu ici, Élie ? Et si je résume ces textes qu'on a lus, dans le premier, la colère de Jonas vient du fait qu'il trouve injuste, que Dieu ait compassion des autres peuples qu'Israël. Et puis surtout, le prophète est ridicule. Ben oui, il a annoncé à tout le monde que la ville allait être détruite, il attend ça, d'ailleurs il va s'asseoir pour regarder finalement que Dieu va accomplir finalement la prophétie qu'il a faite, et il est ridicule, il perd de sa crédibilité, et il est affaibli. Et ça, Jonas, il ne le supporte pas, et il trouve ça affreusement injuste. Pour Caïn, Caïn finalement ne veut pas faire comme Dieu l'invite à procéder pour s'approcher de lui. Dieu refuse son offrande, et Caïn trouve cela injuste. C'est vrai finalement, pourquoi Dieu accepte l'offrande de mon frère et la mienne, il ne l'accepte pas. Troisième situation, Élie ne comprend pas pourquoi Dieu ne le préserve pas des malheurs. Lui qui a son service pour Élie, Dieu est injuste. C'est vrai, il a fait un miracle devant 400 prophètes de Baal. Il est arrivé finalement à être le seul et au lieu d'être récompensé, il a cette menace de mort, il s'enfuit et il ne comprend vraiment pas pourquoi Dieu agit ainsi. Pour lui, Dieu est injuste. Et pour nous à méditer, pour aller un peu plus loin, pour Jonas et pour nous aussi, se dire qu'est-ce qui est le plus important ? Le projet ? Voilà, pour Jonas, le plus important, c'était d'avoir raison. C'était la vérité. C'était de dire, ben voilà, Dieu avait dit que ça allait se passer comme ça, il ne peut pas revenir en arrière, ce n'est pas possible. S'il fait ça, voilà, moi je perds toute ma crédibilité en tant que prophète et c'est insupportable. Voilà, le projet est-il plus important que les autres ? Pour Dieu, personnellement, il me semble que voilà, les hommes qui ont accepter de faire un chemin en arrière, Dieu dit, ben, je change d'avis. Deuxième chose, Caïn, la dépendance à Dieu m'empêche-t-elle d'être libre dans mes choix ? Caïn, Dieu lui avait montré finalement comment bien faire. Si tu fais bien, tu seras agréé. C'est forcément qu'il lui a montré. Et du coup, Caïn, il dit, non, mais moi, je veux être libre dans mes choix, je ne veux pas être dépendre de toi, donc ça ne m'intéresse pas. La dépendance à Dieu m'empêche-t-elle d'être libre dans mes choix ? Et troisième chose, Élie, servir Dieu m'épargne-t-il les circonstances difficiles ? Il me semble que souvent, en tant que croyant, on a peut-être cette prétention de dire parce que l'on est avec Dieu, on est épargné de circonstances difficiles. Ou on est épargné peut-être de difficultés, de choses qui nous arrivent. Et quand ça nous arrive, on se sent affaibli, on se sent trahi par Dieu et on trouve que c'est injuste. Et finalement, dans ces trois exemples, il me semble qu'il y a un sentiment commun. Donc, Jonas trouve la situation injuste car Dieu a compassion des autres peuples qu'Israël. Caïn ne veut pas faire comme Dieu l'invite à procéder et l'offrande de son frère est acceptée et la sienne, non. Et la troisième, Élie ne comprend pas pourquoi, finalement, quand il marche avec Dieu, les choses qui lui arrivent, elles sont pas bonnes et il trouve ça injuste. Et le sentiment commun, il me semble, à ces trois personnages, c'est l'injustice. C'est injuste. Et il me semble qu'on peut dégager une définition de la colère ou de l'irritation, parce que c'est à peu près, il me semble, le même mot, mais on pourra en discuter après. La colère est l'émotion qui m'accompagne face à l'injustice. Quand les choses sont injustes, je me mets en colère. Quand les choses sont injustes à mon goût, finalement, l'émotion qui ressort, c'est la colère. Il me semble que c'est intéressant de se dire que voilà, notre sentiment, notre colère, elle est nourrie par ce sentiment de trouver que la situation est injuste. Et il me semble que l'homme est en colère. Je vois que aujourd'hui encore, on entend des choses, voilà, avec ce qui se passe actuellement aux informations et puis ailleurs. Il me semble que le plus gros problème, un des plus gros problèmes pour l'homme, c'est de trouver que les choses sont injustes. Et l'homme est en colère. L'injustice, on peut la vivre dans notre vie personnelle. Échec, culpabilité, ne pas s'en sentir à la hauteur. Voilà, on se sent en colère contre nous-mêmes, finalement, de ces choses que l'on vit. Dans notre vie professionnelle, l'incertitude, se dire, mais aujourd'hui j'ai un travail, demain peut-être j'en ai plus, mais c'est injuste. Le manque de motivation peut-être de nos collègues, voilà, les inégalités entre hommes et femmes, plus de salaire, moins de salaire, ou encore les inégalités, ou peut-être tout simplement se dire, ben moi je travaille et l'autre qui ne travaille pas à côté, il prend ma place, ou il prend un poste plus important, c'est injuste. Dans la vie sentimentale, on a hommes et femmes des désirs différents, et on pourrait se dire, mais c'est pas possible de ne pas comprendre que finalement, ma femme, mon mari doit écouter finalement ses désirs, mais c'est injuste qu'ils les entendent pas. Le manque d'engagement aussi. Dans la vie d'église, la comparaison et lutte de pouvoir, la paresse intellectuelle, le manque de considération. Se dire, mais voilà, moi je suis un petit jeune et on te prend pas au sérieux, mais c'est injuste. Et ou de se dire, mais les gens, au lieu de lire la Bible, ils préfèrent se critiquer, mais c'est injuste. Voilà. Des choses comme ça qui sont dans notre vie, la vie familiale, le manque de contrôle, les rapports douloureux avec les enfants, les difficultés avec la belle famille, la vie sociale, l'incompréhension, le manque d'intérêt, la domination. On sent en ce moment qu'il y a une volonté d'un État de contrôler et de dominer tout ce qui ne veut pas être d'accord avec lui. Dans la société, les conflits d'intérêts, le moteur de l'argent, dire que voilà, l'argent fait tout, l'importance du pouvoir, encore les inégalités, la pauvreté, la misère. Bref, un ensemble de choses qui font qu'à un moment donné, même en tant que croyant, on peut perdre pied et se dire que c'est injuste et ça nous met en colère. Mais on entend avec Jacques au chapitre 1 au verset 19, c'est un verset qui me touche énormément, parce que c'est vrai qu'à chaque fois que je m'irrite ou que je me mets fortement en colère pour différentes choses, j'ai cette parole qui résonne, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est-à-dire finalement quand l'homme se met en colère, il ne fait pas ce que Dieu l'appelle à faire. Il n'est pas dans cette réalité, dans ce face-à-face avec Dieu. Et il y a ce point qu'on lève contre le ciel finalement, dans lequel on dit « mais c'est injuste ». Et c'est vrai qu'il y a des choses injustes que l'on peut vivre, que l'on voit. Et il me semble que voilà, il y a des choses à réfléchir et à travailler à l'intérieur. Mais ce verset donc de Jacques, il faut prendre un petit peu aussi le contexte de la lettre pour peut-être mieux le comprendre. On a des personnes qui sont issues finalement du peuple d'Israël, qui sont chrétiens mais d'origine juive et qui ne sont plus finalement dans Jérusalem, mais qui sont dans d'autres régions et qui voilà, essayent de rester fidèles à Dieu. Et c'est compliqué. Et Jacques veut leur dire mais que tout est compliqué. Et que peut-être la persécution ou ces choses qui peuvent vivre, et nous aussi dans nos vies, il me semble que les épreuves de nos vies, des fois, nous bouleversent et nous font dire et penser n'importe quoi. Et je crois que des fois, personnellement, on peut être très en colère. Dans notre vie, on peut garder une colère forte et importante contre un ensemble de choses. Et voilà, on va réfléchir ensemble finalement sur qu'est-ce qu'on en fait de cette colère. Est-ce qu'on la garde pour nous? Est-ce qu'on va s'inscrire dans un club de sport pour taper dans un punching ball? Est-ce que finalement on arrive à faire quelque chose avec ça? Et il y a un deuxième verset, voilà, le premier verset que j'ai lu qui dit que finalement la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu, mais un autre verset dans Éphésiens 4, verset 26, et la version originale est dans l'impératif. Mettez-vous en colère et ne péchez pas. Mettez-vous en colère, voilà. Il y a aussi cette parole de l'apôtre Paul qui dit aux Éphésiens de se mettre en colère aussi. Alors voilà, il va falloir qu'on réfléchisse ensemble sur le sens de la colère, de l'irritation. Et c'est la suite au verset 27 qui dit que le soleil ne se couche pas sur votre irritation et ne donnez pas occasion au diable. C'est-à-dire que même dans ma colère, j'ai quelque chose à faire. Que le soleil ne se couche pas sur votre irritation et ne donnez pas occasion au diable. Alors nous, pour exemple, pour se mouiller un petit peu, là-dedans aussi, avec Natacha, on a ce verset, il nous touche aussi beaucoup. Parce que quand, en tant que couple, on se dispute, on essaye vraiment de se réconcilier avant la fin du jour. Parce qu'on se dit que ce verset, il a du sens. Le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Parce que quand on ne dit pas ce que l'on pense, ou quand on ne se met pas en colère, il me semble qu'on le garde au plus profond de nous-mêmes et que ça se transforme en rancune et que c'est différent après dans le rapport. Il me semble que c'est intéressant de se dire que voilà, il faut se mettre en colère, mais il ne faut pas non plus donner occasion au diable dans le sens où si on ne le fait pas, il me semble qu'on passe à côté de quelque chose et si on s'irrite et que on n'arrive pas à sortir de là, alors il me semble que la colère n'est pas juste. Mais on pourra en discuter. Aussi pareil avec le contexte de cette lettre, les Éphésiens. Les Éphésiens, c'est la lettre qui nous parle du monde invisible, Dieu céleste, le rapport finalement entre le vrai et le faux, la lumière et l'obscurité. Il me semble que les Éphésiens, c'est l'Église qui avait touché à énormément de choses occultes et que Paul... avait libéré aussi et que beaucoup de gens étaient venus pour confesser publiquement ce qu'ils avaient fait. Et un ensemble de choses dans cette lettre qui nous dit que l'apôtre Paul les appelle finalement à leur dire « Votre condition ancienne face au monde invisible, elle est terminée. Mais maintenant, dans votre vie, il faut continuer finalement à le vivre et à être dans ce rapport avec le monde invisible en choisissant de dire la vérité. » Parce que quand on ne la dit pas, alors finalement, on sert le diable. Et voilà une question. Est-il juste de se mettre en colère? Faut-il rester dans la position du serviteur? Personnellement, dans ma vie, j'ai été énormément dans la position du serviteur. Peut-être trop. Peut-être trop. Parce qu'aujourd'hui, à 39 ans, je me rends compte en fait que je n'ai pas toujours dit ce que je voulais dire aux gens. Je ne suis pas toujours mis en colère, etc. Et je trouve que aujourd'hui, je me mets beaucoup plus en colère par rapport à un ensemble de choses. Et est-il juste de se mettre en colère? Personnellement, je pense que oui. Il est juste de se mettre en colère et que Dieu nous appelle à y faire quelque chose. Et c'est ce que je vous propose de voir ensemble et de réfléchir, trouver la liberté dans la colère. La première chose. Peut-être qu'il faut marquer comme en haut de son lit, peut-être, ou devant la porte de chez soi. Dieu rend justice, et je peux trouver la paix. Il me semble que c'est le point de départ. On a parlé de l'injustice. Qu'est-ce que la justice? Il me semble que la justice, c'est Dieu qui arbitre entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Et Dieu nous appelle, il me semble, à vivre des choses vraies devant lui. Et quand ça ne l'est pas, il faut le dire, c'est injuste, et se mettre en colère. On a cette idée que, ayant donc été, Romains 5, 1, ayant donc été justifié sur le principe de la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nos actes devant Dieu sont rendus justes par le sang de Jésus-Christ. Et dans ce que nous vivons, quand nous vivons des choses devant Dieu, Dieu nous appelle finalement à chercher ce qui est vrai et à le vivre. Et quand ça ne l'est pas, à confesser et à revenir en disant « Oui, je me suis trompé et je te demande pardon. » Et je sais que ce n'est pas mes propres œuvres qui me sauvent, mais bien le sang de Jésus qui a été offert une fois pour toutes sur une croix, qui me permet de regarder à toi et d'être juste et en paix devant toi. Comment finalement on sort de l'irritation? Comment on fait pour sortir peut-être d'une colère qui continue et qui grandit? Il me semble que ce verset de Romains 12, 19 nous donne une clé. « Ne vous vengeant pas vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, moi je rendrai, dit le Seigneur. » À moi la vengeance, moi je rendrai, dit le Seigneur. Mais laissez agir la colère. Et on a un exemple voilà, du Seigneur Jésus, Pierre qui nous le rappelle, au chapitre 2, verset 21-24 de sa première épître. « Car aussi Christ, qui lorsqu'on l'outrageait ne rendait pas d'outrage, quand il souffrait ne menaçait pas, mais se remettait à celui qui juge justement. » C'est-à-dire que Dieu rend justice, voilà, Dieu rend justice. Ma colère s'exprime, voilà, je dis c'est injuste, j'exprime ma colère et elle retombe. Un peu comme ce petit bonhomme qui devient tout rouge et qui se met en colère, mais qui, voilà, se met, comme on dit, pique un phare, il se met en colère et puis par la suite, finalement, quand il a exprimé ce qu'il a à dire, bah, comme Dieu finalement est juste, et que c'est lui qui rendra justice, et que justice a été rendue pour les choses, et qu'elle sera rendue, alors finalement, ma colère retombe. Voilà, premier exemple. Dieu rend justice. Ma responsabilité, affirmer la vérité et réfuter le mensonge. On a dans Éphésiens 4, verset 25, parler la vérité chacun à son prochain. Waouh, qu'est-ce que c'est difficile des fois de parler la vérité chacun à son prochain. Qu'est-ce que c'est engageant de dire des fois, bah de se retrouver malheureusement avec quelqu'un et de devoir lui dire les, comme on dit, les quatre vérités en face. Et combien c'est une prise de position, mais quand on le fait, combien ça fait du bien de dire, voilà, je te dis ça parce que tu m'as blessé, tu m'as fait mal, j'ai pas aimé ce que tu m'as dit, ou voilà, je trouve que ce que tu proposes ou ce qui est proposé est injuste. Je crois que c'est extrêmement important de le faire. Et quand on ne le fait pas, il me semble qu'on se frustre. On se frustre ou on met sous le tapis, comme on dit, et on met sous le tapis, et un jour, en fait, ça explose. Les choses explosent et on part dans un autre extrême, il me semble, dans lequel, finalement, on se met en colère pour tout et pour rien. Parce que pendant des années, finalement, on ne s'est pas mis en colère quand il fallait. Deuxième chose, pour que Dieu rende justice, il faut croire que Dieu rend ou rendra justice. 2 Timothée 4.1 nous dit « Je t'en adjure devant... » Je vais le lire, excusez-moi. 2 Timothée 4.1 « Je t'en adjure devant Dieu et le Christ Jésus qui va juger vivant et mort et par son apparition et par son règne. » Voilà. J'ai l'idée qu'un jour, tout ce que je fais, tout ce qu'on me fait, sera rendu finalement visible et sera jugé soit dans ce temps qu'on appelle le millénium, que vous avez vu ensemble, il me semble, hier avec Romaric, et, ou alors finalement qui sera aussi jugé pendant ce qu'on appelle le tribunal de Christ, avec cette idée que ben, mes actes, ce que j'ai fait, le mal que j'ai fait aux gens aussi sera finalement mis devant, dans la balance et sera finalement jugé aussi dans ce sens. Enfin, dernière chose, rejoindre Dieu dans son regard. Je connais les pensées que je pense à votre écart, pensées de paix et non de mal, pour vous donner un avenir et une espérance. Dieu rend justice. Rejoindre Dieu dans son regard, c'est dire, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? C'est finalement se dire, mais qu'est-ce qu'on est en train de vivre ? Est-ce qu'on est en train de vivre des choses qui nous échappent ? Ou est-ce qu'on est en train de vivre des choses qui sont dans la main de Dieu et dans lequel Dieu m'appelle à faire quelque chose et à comprendre quelque chose pour finalement le rejoindre dans son regard. Est-ce que ce que je vis est forcément quelque chose d'injuste ou est-ce que c'est ma manière de le voir qui est injuste, puisque Dieu est juste ? Deuxième chose, je ne crois pas que Dieu rend justice, je veux que justice me soit rendue. Dieu ne rend pas justice. Voilà, donc le premier cas, c'est le cas où finalement, Dieu rend justice, tout est bien, j'ai compris, et finalement, parce que Dieu rend justice, alors, voilà, je dis ce que j'ai à dire, et puis je n'en veux pas à la personne. Ma responsabilité, c'est de dire, pas d'attendre que lui, finalement, soit d'accord avec moi, ou qu'il me demande pardon. C'est bien quand il me demande pardon, mais si lui ne le fait pas, je n'ai pas à exiger de lui qu'il le fasse. C'est-à-dire que finalement, ma responsabilité s'arrête à ce que je dois dire. Je le dis. Et puis finalement, quand je l'ai dit, ma colère retombe. Si ma colère ne retombe pas, c'est que probablement je ne pense pas que Dieu rend réellement justice, ou je n'ai pas bien compris comment il fallait que Dieu rende justice, ou je n'ai pas bien encore réalisé tout ça. Et finalement, je néglige mon rapport à la vérité et au mensonge face à Dieu et aux autres. Ben, soit je n'exprime pas les choses, soit finalement j'attends que l'autre soit d'accord avec moi pour passer à autre chose. Deuxième chose, je ne pense pas que Dieu rend réellement justice. Et ben, d'une certaine façon, ben, je me venge. Voilà, hein, le mal qu'on m'a fait, je le rends. Donc, d'une manière directe ou différée, c'est-à-dire finalement, ben, j'attends la meilleure occasion pour, comme on dit, ressortir quelque chose, le vieux dossier, ou attendre le moment favorable pour te dire, bah, tu te rappelles la dernière fois quand tu m'as fait ça ? Bah, tiens, maintenant, moi, je te fais ça. Et puis, dernière chose, je choisis le chemin de l'indépendance qui n'écoute pas la voix de Dieu. Je crois que c'est un chemin facile. Se mettre en colère, plutôt s'irriter, c'est quelque chose dans lequel c'est plus facile que rejoindre Dieu dans son regard et se dire, mais concrètement, qu'est-ce que tu m'appelles à faire avec toi ? Est-ce que tu m'appelles à rester là-dedans, dans cette colère ? Est-ce que finalement, je vais être en colère contre quelqu'un, comme on a dit ? Mais le quelqu'un, moi, je trouve que souvent, le quelqu'un, c'est Dieu, en fait. Il m'arrive de réaliser, de me dire, mais en fait, je suis en colère contre toi, mon Dieu. Et je te demande pardon et merci de me le montrer. Je choisis le chemin de l'indépendance qui n'écoute pas la voix de Dieu. Et c'est ce que j'appelle l'irritation, c'est-à-dire, voilà, on pourra en discuter, hein, le bras qui gratte. C'est-à-dire, bah, le mal qu'on m'a fait, non, je ne le laisse pas passer, je ne laisse pas passer. Et ça provoque finalement bah, la rougeur, l'irritation, le fait que bah, chaque fois qu'on me dit quelque chose, bah, je remets encore finalement cette situation de nouveau devant et je ne pardonne pas, et je ne pardonne pas, et je ne pardonne pas. Et tant que finalement je n'arrive pas à sortir de ça, bah, je me gratte. Et je peux nourrir des comportements comme ça, finalement, de quelqu'un qui dit « mais voilà, je suis en colère, je ne supporte plus rien », comme un petit peu tous ces états d'âme qu'on a vus au départ. Alors que finalement, il me semble que Dieu nous appelle à sortir de là et à comprendre en fait que finalement, l'irritation, j'ai trouvé ça très beau avec les exemples que je vous ai présentés, l'irritation est un dialogue interrompu avec Dieu. Je vais expliquer, un dialogue interrompu avec Dieu. Dieu veut reprendre le dialogue, mais il nous laisse attendre. Les questions de Dieu. On a vu ces différentes questions avec ces exemples. On a eu « Fais-tu bien de t'irriter ? Pourquoi avez-vous peur ?» Alors ça, c'est un exemple différent. C'est les disciples qui sont dans la barque et puis bah, il commence à y avoir la tempête, etc. Et puis Jésus, à la fin, quand il a calmé finalement la tempête, il les regarde et leur dit « Pourquoi avez-vous peur ?» C'est intéressant ça comme question sur la peur. « Pourquoi es-tu ici ?» Ça, c'est Élie, c'est la question. Pourquoi finalement Dieu pose la question à Élie, pourquoi es-tu ici ? Il le sait très bien pourquoi il est ici. Mais il me semble que Dieu l'invite à comprendre quelque chose pour avancer et retrouver le dialogue avec lui. Puis il dira à Caïn, où est ton frère ? Quand finalement Caïn aura choisi le mauvais chemin, où est ton frère ? Qu'est-ce que tu as fait ? Et puis à Moïse, qui peut-être doute de ses capacités, il lui dira, qu'as-tu dans la main ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'as-tu dans la main ? Et nos exemples, on va les reprendre. Donc Jonas, fais-tu bien de t'irriter ? Caïn, pourquoi ton visage est-il abattu ? Et Élie, pourquoi es-tu ici ? Fais-tu bien de t'irriter ? Il me semble que pour les trois, Dieu les invite à réfléchir. Pour le premier, Jonas, fais-tu bien de t'irriter ? Dieu veut pousser Jonas dans ses retranchements. Il a poussé une première fois. La première fois, Jonas, au lieu de faire sa mission, il est parti à l'opposé. Il y a eu la tempête qui l'a arrêté, il a compris. Il a été dans le ventre du poisson, il a confessé, il est revenu. Et on se dit, waouh, il a tout compris. Et finalement, non. Il revient, il continue, et oui, il a compris qu'il devait faire ce que Dieu l'appelait à faire. Il le fait. Et quand les gens de Ninive changent de manière de vivre, lui, il est très irrité contre le fait que Dieu peut pardonner. Et Dieu l'invite finalement à le rejoindre dans un dialogue. La première fois, il lui dit « Fais-tu bien de t'irriter ?» Il n'a aucune réponse. Jonas, il s'en va, il boude, il va dans son coin et il attend de dire « Mais ça va se passer exactement comme je voulais que ça se passe. Dieu, il doit être absolument d'accord avec moi. Ce n'est pas possible que ça se passe autrement. » Et il attend. Et il y a cet épisode avec le kikajon, etc., qui pousse. Et il est dit que pour lui enlever son irritation, voilà. Il y a toujours cette idée de Dieu qui est là pour dire « Mais je veux reprendre le dialogue avec toi, mais entends que je t'appelle. Mais je te laisse venir quand tu voudras, mais je te pose des questions de temps en temps. » Et la deuxième fois, c'est « Fais-tu bien de t'irriter à cause, finalement, de cet arbre ?» Et là, on voit tout ce que Jonas a au plus profond de lui-même et qu'il exprime. Et la leçon, après, il peut ou pas la comprendre. On ne sait pas s'il a compris, mais en tout cas, elle est exprimée. Et voilà, Dieu lui dit « Mais quand même, Jonas, qu'est-ce qui est le plus important ? Que tu aies raison ou que des gens se convertissent et que finalement, ils viennent de nouveau à moi et qu'ils comprennent leurs erreurs. Toi aussi, tu as fait des erreurs. Et dans les erreurs que tu as faites, je t'ai pardonné. Donc, de la manière dont je t'ai pardonné, toi aussi, tu peux pardonner. » Deuxième exemple, Caïn, Dieu l'invite à faire comme il lui a sans doute montré. Voilà, on a cette parole au début dans la Genèse, au chapitre 3. Excusez-moi, pas au chapitre 3, chapitre 4, qui lui dit « Et si tu ne fais pas bien, le péché est couché à ta porte. » Et il lui dit avant « Si tu fais bien, ne serais-tu pas agréé ?» Quand on me dit à moi « Si tu fais bien » et qu'on ne m'a pas montré forcément comment faire bien, alors bon, on est injuste. Mais il me semble que Dieu lui a montré certainement comment bien faire les choses. Par contre, lui, Caïn, il choisit finalement le chemin de l'indépendance. Pourtant, Dieu l'invite à faire comme il lui a sans doute montré. C'est-à-dire que dans le dialogue, quand Dieu lui dit « Mais pourquoi ton visage est comme ça ?» il lui montre même la solution pour finalement en sortir en lui disant « Mais fais bien et tu verras, ça va bien se passer. » Et voilà. Et Dieu laisse aussi finalement la liberté à Caïn de s'éloigner de lui. Ça peut nous faire réfléchir aussi ça. Et puis troisième chose, Élie, Dieu lui montre que son regard est faussé, qu'il ne voit que l'apparence dans les circonstances. Voilà, pareil, on est dans ce regard où Élie se dit « Mais j'ai fait un miracle et je suis tout seul, et même en étant tout seul, Dieu ne me bénit pas. » Et Dieu va lui dire « Mais tu te trompes complètement, Élie. Non seulement tu n'es pas tout seul, mais en plus, j'ai déjà quelque chose qui est prévu. » Et la question qu'il lui pose, c'est plusieurs fois « Que fais-tu ici » C'est-à-dire « Mais finalement, tu es prophète, mais qu'est-ce que tu fais dans le désert en fait ? Qu'est-ce que tu fais loin de ce que je t'appelle à faire ? Qu'est-ce que tu fais là ?» Et pareil, on a Élie qui va se déverser, qui va dire tout ce qu'il a au plus profond de lui-même en montrant finalement ce qu'il a. Et la conséquence quand même, c'est que sa mission en tant que prophète va s'arrêter et qu'il va passer le relais. Voilà, trois exemples bien différents qui nous montrent que Dieu veut reprendre le dialogue avec nous dans notre irritation.
Est-ce que quelqu'un est... est-ce que vous êtes là? Est-ce que c'est lui?
Et c'est lui, il ne fonctionne plus.
C'est lui apparemment.
Nous, on est là, mais plus lui.
Ah ouais.
D'accord. Alors, je crois qu'il n'est plus connecté apparemment.
Il s'est déconnecté.
Oui, il s'est déconnecté.
Ouais. Il est déconnecté parce qu'on ne le voit plus dans la liste des participants.
Bon.